Donc, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi à cet épître de Paul aux Éphésiens. La première partie de cet épître nous dit ce que Dieu a fait pour nous. Et je disais que le thème principal de ce livre, c'est la grâce. Car le mot grâce est cité à plusieurs reprises et à différentes occasions. Et un fait important au sujet de la grâce qu'on avait mentionné, c'est que la grâce ne glorifie pas l'homme. La grâce glorifie Dieu. Et c'est pour cela qu'en tant qu'homme, nous ne nous sentons pas tout à fait confortables avec la grâce. Parce qu'il est dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de foi pour accepter la grâce. Et il est dit à plusieurs reprises que la grâce, et Dieu nous accorde cette grâce afin de célébrer les louanges de sa gloire. Le but ultime de la grâce, toute la grâce que Dieu nous accorde, c'est de célébrer pendant toute l'éternité les louanges de sa gloire. L'homme n'a rien à voir avec la grâce. Et l'homme ne se sent pas confortable avec cette grâce parce que la grâce glorifie Dieu et Dieu seul. Donc, on avait mentionné plusieurs chose importante que Dieu avait faite pour nous. D'abord, il nous avait élus avant la fondation du monde, avant votre naissance, avant la naissance de ce monde. Dieu vous a vu, il vous a connu, il vous a choisi, il vous a élu avant la fondation du monde. En ce sens, votre conversion n'est pas une surprise pour Dieu. Votre vie n'est pas une surprise pour Dieu. Il a planifié votre vie d'avance. Alors, il y en a qui vont dire, mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas sauvés? Ça, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, nous dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est votre chance. Ne pensez pas aux autres, mais acceptez cette grâce ce matin que Dieu nous accorde. Donc, il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a placés en Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a plusieurs termes importants. D'abord, le fait d'être en Christ. Nous ne comprenons pas toute la portée de cette vérité d'être en Christ. Nous ne comprenons pas cela. Mais cela veut dire beaucoup, le fait d'être en Christ. Nous avons une union avec lui, nous avons la communion avec lui. Sa vie coule dans notre vie. Et il y a une communion parfaite entre lui et nous. Il y a tellement de bénéfices qui découlent du fait que nous sommes en Christ. Dieu nous a placés en Christ. Il y a d'autres éléments, par exemple le fait que nous sommes assis déjà dans les lieux célestes. Si nous ne comprenons pas ce que cela veut dire d'être en Christ, encore moins pouvons-nous comprendre ce que cela veut dire d'être assis déjà dans les lieux célestes. Nous ne comprenons pas cela. Et c'est pour cela que Paul, il a prié à maintes reprises que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'il nous aide à comprendre, à saisir la dimension de ces vérités. Et plus tard, dans cet épître, Paul va parler de la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ, qui surpasse tout que nous n'arrivons pas à comprendre. Ce n'est pas sans raison que nous menons des vies ternes, difficiles. Nous vivons dans la défaite parce qu'il y a tellement de vérités spirituelles que nous n'appréhendons pas encore. Nous ne comprenons pas encore. Nous ne sommes pas en train de les vivre. Ce sont des réalités, des choses que Dieu nous accorde, mais que nous ne comprenons pas. Et à travers les siècles, l'ennemi s'arrange à ce que ces vérités soient restées cachées et voilées pour que nous n'accomplissions pas la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu nous a élus. Il nous a sauvés. Il nous a placés en Christ. Il nous a unis, nous sommes unis dans la grâce. Vous allez voir plus tard, dans l'autre partie du livre, Paul va nous exhorter à préserver ce lien d'unité que nous avons en Christ. Ce n'est pas à nous de créer ce lien. Dieu l'a créé lorsqu'il nous a placés tous sous la même grâce. Il nous a placés tous sous le même standard. Tous ont péché. Sans exception, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tous, sans exception, ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes unis, nous étions solidaires dans le mal, solidaires dans le péché. Et Dieu nous a rendus solidaires dans la grâce. Il nous a placés sous sa grâce. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Non pas par vos œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Dieu a fait tout ça pour nous. Et ce matin, nous sommes arrivés au chapitre 2. Le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et je vais faire pour vous la lecture de ce chapitre. Et le titre de ce chapitre, c'est « Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle ». Il y a une bonne nouvelle dans ce chapitre. Il y a une mauvaise nouvelle dans ce chapitre. Généralement, dans le monde, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Mais dans la Bible, il y a toujours une bonne nouvelle. Alors, je vais lire pour vous quelques versets. Il dit, je vais d'abord lire 5 versets pour vous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, voilà la solidarité dans le mal, dans le péché, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La mauvaise nouvelle, dans ce chapitre, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. D'abord, nous étions morts. Nous étions morts. Hier, j'ai eu l'occasion de célébrer les funérailles de Madame Éveillard. C'est la belle-mère de Geneviève Mésidor, mais maintenant le vaillant. Oh non, lui jeune, pardon. Et j'ai célébré les funérailles. Quand on est mort, on est conscient de rien. Tout ce qui se passe autour de nous, dans la vie, n'a aucune importance parce qu'on est mort. Et lorsque la Bible dit que nous étions morts, cela veut tout simplement dire que nous ne comprenions pas les choses de Dieu. Nous n'acceptions pas les choses de Dieu. Nous ne pouvions pas l'accepter. La Bible dit que c'était une folie pour nous quand on parlait de Dieu, quand on parlait de la parole de Dieu. C'était impossible. Nous ne pouvons pas accepter ces choses. Nous étions morts. Et Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait. Rien n'allait changer dans notre vie. C'est la mauvaise nouvelle. Il y en a qui sont encore dans cet état ce matin, qui sont morts spirituellement, vivants physiquement, mais morts spirituellement. C'était le cas de Nicodème lorsqu'il s'était approché de Jésus pour dire, « Seigneur, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus a dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Nicodème était religieux, il était leader, il était le grand enseignant en Israël, il était docteur de la loi, il avait tout pour lui. Mais Jésus a dit à Nicodème, « Ce que tu vois de tes yeux, tu ne pourras pas comprendre ces choses parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir les choses de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, voir, marcher et vivre dans ce royaume. Donc, nous étions tous morts. Et il n'y a pas de degré dans la mort. Quand on est mort, on est mort. On peut être mort une journée, deux journées, trois journées, un an, 20 ans, 1000 ans. Il n'y a pas de degré dans la mort. La mort, c'est la mort. Nous étions tous morts par nos offenses. Et la Bible dit que non seulement nous étions morts, mais nous étions sans puissance, nous étions sans force. Je ne pouvais pas me ressusciter moi-même spirituellement, vous ne pouviez pas le faire non plus. Non seulement nous étions sans force, mais nous étions corrompus. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Il dit, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Amis, maintenant chrétien, je ne veux pas vivre selon les convoitises de ma chair. Il y a beaucoup de choses que ma chair désire, mon corps cherche, que je ne peux pas faire parce que maintenant je suis vivant spirituellement. Je ne peux pas vivre selon les désirs de ma chair. Plus jamais, je ne peux pas faire cela. Parce que je suis né de nouveau, je suis vivant maintenant. Et non seulement selon les désirs de notre chair, mais selon nos pensées. Ce que je pensais être bon, je faisais ce qui me paraissait bon. Et c'est ce que Ésaïe a dit, chacun suivait sa propre voie. Et nous étions tous comme des brebis errants. Et nous étions égarés. Donc, c'était la corruption totale. Et si nous prenons le temps de lire dans Romains, chapitre 1er, pour voir l'état de cette corruption. Et la Bible dit, nos cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Et nous faisions des choses qui dégradaient notre corps, notre esprit, notre âme, qui détruisaient notre âme. Parce que nous étions morts. Ça puait, mais nous ne pouvons pas le savoir, parce que nous étions morts. Quelqu'un d'autre qui était vivant pouvait nous regarder pour dire, mais comment peut-il vivre dans cette situation? Mais pour nous, nous étions morts. Et il n'y avait aucun espoir. Pourquoi est-ce que nous étions morts? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous ne vivions pas selon Dieu, selon la vie de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le verset 2 à nous dit que nous étions sous la domination du diable. Les démons nous poussaient à faire tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Parce que les démons sont des ennemis de Dieu. Et je lisais dans l'épître de Jude que ces démons, ces anges déchus, c'est eux qui avaient introduit l'homosexualité dans le monde. C'était ces anges déchus. Les hommes ne connaissaient pas ces choses. Et c'était ces démons qui avaient introduit l'homosexualité. Et Dieu avait jugé le monde d'alors. Il avait jugé le monde avec Noé, avec le déluge, à cause de cette immoralité qui avait atteint un apogée, qui avait atteint son niveau le plus haut. Et ensuite à Sodome, à Gomorre. Encore une fois, Dieu a jugé ce péché. Mais la Bible dit, nous étions tous de leur nombre parce que nous agissions sous la domination de ces esprits mauvais. Qui nous poussait à faire des choses, qui nous poussait à haïr, qui nous poussait à détruire, à agir contraire à la volonté de Dieu, à faire ce qui nous paraissait bon, parce que nous étions sous la domination de ces démons. Amis, comme c'est triste pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce ne sont pas les bonnes pensées qui manquaient, mais c'était le pouvoir d'accomplir les bonnes choses. La capacité de faire ce qui est bien. Parce que l'apôtre Paul lui-même, il a dit, quand il voulait faire le mal s'attachait à lui. La volonté était là, mais la puissance n'était pas là. Mais maintenant, la Bible dit que Dieu nous a ressuscités et nous sommes vivants. Nous sommes vivants, nous ne sommes plus sous la domination de ces démons, de ces princes, de la puissance de l'air. Maintenant, encore il dit, nous étions désobéissants à la parole de Dieu. Le verset 3 nous parle de notre dépravation totale. Nous étions incapables de faire quoi que ce soit qui pouvait plaire à Dieu. Parce que tout ce que nous faisions, c'était pour satisfaire nos propres désirs personnels. Nous n'avions aucun désir de faire ce qui plaisait à Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Maintenant, vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites que vous êtes né de nouveau. Permettez-moi de vous faire cette question. Est-ce que vous vivez maintenant pour plaire à Dieu ou est-ce que vous continuez à vivre selon vos pensées? Est-ce que vous cherchez encore à gratifier vos désirs charnels? Est-ce que vous vivez encore pour vous ou est-ce que vous cherchez à plaire à Dieu? C'est ça la différence. Autrefois, je vivais pour moi-même. Je faisais tout pour moi-même. Maintenant, je ne vis plus pour moi. Je ne fais rien pour moi. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Amis, comme le monde serait différent si chacun de nous, nous vivions pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Si nous cherchons à faire ce qui plaît à Dieu, plutôt de ce qui nous fait plaisir. Et c'est ça la différence. Et c'est ça la différence entre autrefois et maintenant. C'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. C'est ça la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Parce que le croyant maintenant vit pour Dieu, il ne vit plus pour lui-même. Il vit sous le contrôle du Saint-Esprit et non sous le contrôle des démons. Car il y a ces deux forces, amis, dans le monde. Si vous ne marchez pas selon l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas sous le contrôle du Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Les démons vont vous dominer. Ils vont vous pousser à faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Eh bien, c'était notre situation. C'était notre situation. Et la Bible dit, il n'y avait pas d'exception. Nous n'étions pas nature, c'était notre nature. On pouvait chasser le naturel. Qu'est-ce que l'auteur a dit? Il allait revenir au galop. Parce que c'était notre nature. C'est pour dire que les bonnes pensées, la moralité ne peut rien faire pour nous. La philosophie ne peut pas nous changer parce que c'est notre nature et même notre philosophie émane de ce que nous sommes, de cette nature pécheresse. Mais non seulement nous n'étions pas nature, des enfants désobéissants, mais nous étions des enfants de colère. Dieu était en colère contre nous. Tous ceux qui ne connaissent pas le Christ maintenant sont sous le colère, la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu. La Bible dit, ceux qui croient ne seront point jugés. Mais ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Jugés veut dire quoi? Condamnés. Ils sont condamnés. La seule possibilité pour eux, c'est d'accepter le Christ. Alors ça, amis, c'est la mauvaise nouvelle. Mais quelle est donc la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? C'est le verset 4 qui marque le contraste entre ce que nous étions et ce que Dieu a fait. Il y a le mot « mais » et tout de suite après le « mais », il y a Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour cette différence. Il n'y a pas dit « mais votre pasteur » ou « mais votre leader spirituel » ou quelqu'un d'autre, mais Dieu. Et il va décrire quelque chose de Dieu qui est extraordinaire, ami. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. C'est sa miséricorde qui nous a sauvés. Il nous a fait grâce. Il est riche en miséricorde. Je ne sais pas pour vous, mais je regarde ma vie. Moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 9 ans. Je n'avais pas le temps de commettre des péchés grossiers, des trop gros péchés, si on peut dire, parce que j'avais seulement 9 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Mais j'en avais fait assez pour reconnaître qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. Et à ce moment-là, je savais que j'avais besoin d'un sauveur. J'avais besoin de la grâce de Dieu. Alors, à entendre le témoignage d'un homme comme Agimal, avez-vous déjà entendu le témoignage d'Agimal? Le nom vous dit déjà quelque chose. Agimal. C'était un Ougan qui a tué des, je ne sais pas combien de personnes. Qu'est-ce que ça prend pour sauver Agimal? Quelle somme de grâce que ça prend pour sauver Agimal? Cet homme qui a détruit tant de vies, qui a détourné tant d'esprits, qui a fait tant de mal. Ça prend toute la grâce de Dieu pour sauver cet homme, pour pardonner ses péchés, pour laver ses iniquités, pour le sauver et faire de lui un enfant de Dieu. Alors, la Bible dit que Dieu est riche en miséricorde. Il n'y a aucun pécheur ce matin que la grâce de Dieu ne puisse sauver. Dieu peut vous sauver, peu importe vos péchés, le nombre de vos péchés. Et c'est pour cela que j'aime la Bible. La Bible dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et hier, en regardant les funérailles de Whitney Houston, quelqu'un a parlé de ce verset pour montrer, pour illustrer la vie de cet artiste américain qui est mort. Il a parlé de la hauteur. Le succès dans la musique, dans le monde. Et il a dit, même cette hauteur que Whitney Houston avait atteint ne pouvait pas soustraire Whitney Houston de l'amour de Dieu. Peu importe votre succès dans la vie, peu importe votre réussite dans la vie, il n'y a aucune hauteur qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Mais il a parlé de la profondeur aussi, car cette femme a connu des misères atroces dans la drogue, avec un mauvais mariage qui a détruit sa vie jusqu'à sa mort. Il a rencontré un homme qui a détruit sa vie, qui l'a introduit dans la drogue. Et elle est morte d'une overdose de drogue parce qu'elle en avait pris trop juste avant un spectacle. On l'a trouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Elle a connu des dimensions dans la misère, dans la souffrance que les mots ne suffisent pas pour décrire. Et là encore, cet homme a dit, même dans cette profondeur, elle était encore aimée de Dieu. Pourquoi? Parce que ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime. Dieu vous aime, il m'aime. Et c'est ce que Paul a dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants. Il nous a sauvés par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. La grâce de Dieu peut vous sauver. La grâce peut vous transformer. La grâce peut vous libérer ce matin. Et le résultat de la grâce, c'est qu'aujourd'hui, je suis vivant spirituellement. Aujourd'hui, vous êtes vivant spirituellement si vous êtes en Christ. Et que maintenant, désormais, il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour vous en Jésus-Christ. Vous savez, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce message. Qui n'aiment pas ce message. Parce qu'ils pensent que en parlant ainsi de Dieu, on donne licence aux hommes de vivre dans le péché. Amis, je ne sais pas si votre expérience ressemble à la mienne. Je ne connais aucun homme ou aucune femme qui a besoin de licence pour vivre dans le péché. Je ne connais personne qui a besoin de licence. C'est ce que nous faisons naturellement. Naturellement, nous vivons dans le péché. Ce dont nous avons besoin, c'est une licence pour ne plus vivre dans le péché. Et cette licence pour ne plus vivre dans le péché, devinez, c'est quoi? C'est quoi cette licence? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comme Paul a dit à Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent dans une sainteté et une justice selon Dieu. C'est cette licence dont nous avons besoin pour cesser de vivre dans le péché. Et la grâce de Dieu nous donne une position qui est ferme devant Dieu, éternellement sécure. Rien ni personne ne pourra nous séparer de cet amour. Ce matin, amis, je ne sais pas quelle différence cette grâce a fait dans votre vie. Cette grâce a transformé ma vie. Il a fait de moi ce que je suis, ce que l'argent ne pouvait pas faire, ce que la relation ne pouvait pas faire, la grâce de Dieu l'a fait. J'étais un pauvre petit garçon, relimbé sans avenir et sans espérance. Mais lorsque mes parents avaient accepté Jésus comme leur sauveur personnel, cela m'avait donné l'occasion de grandir dans une famille chrétienne. Et ma mère disait souvent, je n'ai rien à vous laisser parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Elle dit, mais j'ai une chose, ma foi. Je veux vous laisser en héritage ma foi. Ne l'abandonne pas. Et, ami, quel héritage. J'ai fait le tour du monde. Je peux aller n'importe où, là où je veux. J'ai des amis partout, j'ai des maisons partout, j'ai des frères partout, j'ai des sœurs partout. Il faudrait peut-être 10 fois ma vie pour vivre selon toutes les ressources que Dieu a mises à ma disposition. Hier, j'étais avec un ami, parce que j'étais à Montrue hier soir pour prêcher, et cet ami m'a dit, on a besoin de missionnaires pour aller en Afrique. On avait besoin d'Haïtiens pour aller en Afrique. J'ai dit, ah, c'est dommage. Parce que là, je suis pris en Haïti. Je pouvais aller en Afrique. Comment est-ce que je pouvais aller en Afrique? De par mes propres moyens, jamais. Mais Dieu a ouvert une porte pour le ministère en Afrique. Et je dois vous dire, si cela vous intéresse, si Dieu vous appelle, nous serons là pour vous accompagner. Si votre vie n'a aucun sens ici, si votre vie n'a aucun sens ici, nous avons besoin de soldats dans l'armée du Seigneur. Nous avons besoin d'hommes et de femmes haïtiens, haïtiennes, professionnels. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, si seulement on peut enseigner le français. Parce que l'idée, ce n'est pas vraiment d'enseigner le français, mais c'est d'ouvrir la porte pour l'évangile. Il y a tellement d'endroits où les musulmans sont en majorité, on ne peut pas arriver librement et prêcher l'évangile librement. On va se faire tuer. J'étais au Sénégal. J'essaie de témoigner à des personnes. Mais ces personnes disaient, non, nous ne pouvons pas. Nos parents vont nous tuer si nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. J'ai rencontré une jeune fille. On l'avait mis dehors parce qu'elle avait accepté Jésus comme son sauveur personnel. On a besoin de professionnels pour aller comme professionnels, mais en réalité, ce sont des missionnaires, des gens, des hommes et des femmes qui peuvent aller travailler pour Dieu. Non seulement enseigner le français, ou si vous êtes infirmière, si vous êtes médecin, vous pouvez faire quelque chose, alors le gouvernement va vous laisser entrer et cela va ouvrir la porte pour l'évangile. Savez-vous qu'il y a tout le monde musulman aujourd'hui. Dans tout le monde musulman, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore le Seigneur. J'ai parlé avec cet homme hier soir. Il m'a dit Cuba, les chrétiens de Cuba, ils sont prêts. Ils sont prêts à aller partout à travers le monde. L'église cubaine est prête à partir. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que généralement, quand on pense à Cuba, on pense au communisme. Des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de Dieu. Et quand on pense à Haïti, nous sommes libres. Et l'évangile a fait beaucoup de progrès en Haïti. Mais pourquoi l'église haïtienne n'est-elle pas prête à partir? Pourquoi nos jeunes ne sont pas prêts à partir? Pourquoi? Ils sont prêts à devenir médecins, à gagner leur vie, à faire beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas prêts à partir pour le royaume de Dieu. Ils ne sont pas prêts à investir leur vie pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nos églises n'ont pas vraiment grandi. Nous n'avons pas saisi l'essentiel de la grâce de Dieu. Nous n'avons pas compris qu'est-ce que cela veut dire être perdu, être mort spirituellement. Nous n'avons pas compris qu'est-ce que ça fait au cœur de Dieu de savoir qu'il y a une grande partie du monde qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Alors, devinez qu'est-ce qui arrive. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à travers le monde pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Ça veut dire, avant le retour du Seigneur, le monde entier doit entendre ce message de la grâce. Alors, qui va apporter ce message? L'église cubaine est prête. Il n'avait rien, il n'avait pas d'argent. Un Cubain qui arrive ici en Haïti et qui s'achète un vélo, une bicyclette, il se sent riche comme un roi. Et il faut les voir quand ils transportent des appareils de stéréo, de radio. Ils sont allés chez eux. Ils arrivent comme des diasporas. Parce qu'ils reviennent d'Haïti. Ils sont allés acheter du pépé. Et ils arrivent chez eux, joyeux. Et nous avons la liberté. Nous avons l'évangile. Nous avons tout. Mais nous avons une mentalité de pauvre. Nous ne pouvons rien donner. Il faut que sans cesse, on nous donne, on nous donne, on nous donne, on nous donne. Mais quand est-ce que cela va cesser? Avons-nous compris la grâce de Dieu? Nous sommes riches. Dieu dispose toutes ses richesses pour nous. Et ce que j'avais appris comme missionnaire, c'est que le Dieu qui envoie pourvoit. Le Dieu qui envoie pourvoit. Donc, nous avons besoin maintenant de toute une armée d'hommes et de femmes. Il y a des pays de l'Amérique du Sud qui sont ouverts. Il y a des pays d'Afrique qui sont ouverts. Et nous avons besoin de missionnaires. Avez-vous connu la grâce de Dieu? Qu'avez-vous fait de vos enfants? Êtes-vous prêt à laisser partir ses enfants pour Dieu? À les donner comme Isaac pour Dieu? Non, nous aimons trop nos enfants. Nous aimons trop notre nom. Nous ne pouvons pas laisser partir ses enfants. Mais à qui sont-ils? Ils sont à Dieu. Et si personne ne venait en Haïti aujourd'hui, vous ne seriez pas chrétien. Vous seriez, comme l'apôtre Paul a dit, mort dans vos péchés. Mais l'avez-vous apprécié? Avez-vous compris que Dieu vous a rendu vivant avec Christ? Cela vaut-il quelque chose? Cela a-t-il une valeur pour vous, le fait d'être vivant en Christ? Ami, il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au verset 7. Pourquoi est-ce qu'il a fait tout cela? Voilà le verset 7. « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Ça veut dire pendant toute l'éternité, Dieu va se promener avec nous comme des trophées devant les anges, devant toute l'armée céleste pour dire « Voilà la richesse de ma grâce. » Comme des trésors. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre parle de notre foi. Il dit « Votre foi plus précieuse que l'or périssable. » Nous cherchons de l'or, nous cherchons de l'argent, Dieu cherche la foi. Les valeurs ne sont plus les mêmes. Nous n'avons pas la même perspective des choses. Mais Dieu cherche des hommes qui ont la foi. Et pendant toute l'éternité, il va se promener avec nous pour dire « Voici quelqu'un. » Voici ma couronne, voici ma joie. Alors, amis, ce matin, j'espère que Dieu vous a rendu vivant en Christ. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, il n'y a plus de condamnation pour vous maintenant. Plus rien ni personne ne peut vous condamner pour vos péchés. Parce que Dieu vous a pardonné de tous vos péchés. Ça veut dire que le salut que Dieu vous donne, personne ne peut vous l'enlever. Parce que Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça veut dire que vous avez un avenir. Comme Dieu a promis dans le livre du prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que maintenant, rien, il n'y a rien qui vous soit impossible. Rien, ni personne. Car rien n'est impossible à Dieu et Dieu est avec nous. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que nous avons la victoire maintenant. Nous avons la victoire sur la mort, nous avons la victoire sur le monde, nous avons la victoire sur le péché. Mais à nous regarder, on ne va pas croire cela. On dirait que les chrétiens d'aujourd'hui sont les plus malheureux de tous les hommes. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants en Christ. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous étions morts. J'aime le fait que c'est au passé. Je ne suis plus mort. Je suis vivant maintenant. Je suis vivant pour Dieu. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous vivant ou êtes-vous encore mort? Si vous êtes mort, la Bible dit, vous marchez selon le train de ce monde. Vous marchez au rythme de ce monde. Vous vivez aujourd'hui selon le prince de la puissance de l'air. Ce prince, c'est qui? C'est Satan, le diable. Vous vivez selon le diable. Il n'y a personne qui aimerait ça. Et maintenant, il dit, vous êtes mort si vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est riche. Peu importe le péché, le sang de Christ l'efface. Peu importe le péché, le sang de Christ l'efface. Dieu a dit dans le livre du prophète Ésaïe, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. » Dieu peut pardonner. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absous un si grand coupable et mes péchés oubliés? Oui, il peut. Il peut. Alors venez à lui ce matin si vous ne connaissez pas encore. Et si vous connaissez le Seigneur, vivez selon Dieu et non selon nos pensées. Amen.